Décryptage, Marie Cazadebé.
Des mois de rumeurs et puis il aura fallu un tweet pour que Rex Tillerson disparaisse. Le secrétaire d'État américain a été limogé il y a quelques heures par Donald Trump. Le président américain lui préfère l'actuel président de la CIA, Mike Pompeo. Il s'en est expliqué un peu plus tard dans la journée.
En ce qui concerne Rex Tillerson, j'ai beaucoup apprécié son engagement et je lui souhaite bonne chance pour la suite. En réalité, nous nous sommes plutôt bien entendus, mais nous n'étions pas d'accord sur certains dossiers.
Alors, quels sont ces différends qui expliquent une décision aussi radicale de la part du président américain? Et qu'est-ce que cela dit de la diplomatie américaine selon Trump? Notre invité va nous éclairer. Bienvenue dans Décryptage. Bonsoir Annick Cizel.
Bonsoir.
Merci d'être en studio avec nous. Vous êtes maître de conférence à l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3, spécialiste de la politique étrangère des États-Unis. Est-ce que vous avez été surprise d'apprendre il y a quelques heures ce changement à la tête de la diplomatie américaine?
Alors surprise par le timing, oui. Pas du tout surprise par le limogeage de Rex Tillerson. On en parle, je crois, depuis le mois de juillet 2017. Donc c'est un différents épisodes, des rebondissements. Partira pas. Mm-hmm. Très récemment, Rex Tillerson avait dit qu'il pensait rester l'intégralité de l'année 2018. Et puis, coup de théâtre, il a tout juste eu le temps de rentrer d'Afrique. Mmh. John Kelly, le secrétaire général à la Maison-Blanche, lui a fait savoir apparemment vendredi par téléphone qu'il fallait qu'il écourte son voyage. Il l'a écourté de quelques heures, a atterri à Washington à 4h du matin et à peu près à 8h30, 9h du matin. Apprenait donc par un tweet et pas par le président directement.
Voilà, un tweet qu'un de ses conseillers a vu, puisque lui-même, a priori, n'a pas de compte Twitter. Est-ce que vous êtes surprise par la forme? Ce conseiller d'ailleurs a précisé que le secrétaire d'État n'avait pas pu parler au président américain, qu'il ne savait pas ce qui lui valait son départ, un conseiller limogé à son tour. La forme vous surprend pas non plus?
La forme, c'est du Trump absolument typique. Il assume. Il avait prévenu. Alors, pas simplement Rex Tillerson, et je pense qu'il y a d'autres personnes au sein du gouvernement qui doivent se poser des questions aujourd'hui. Il a prévenu dans son discours sur l'état de l'Union le 20 janvier dernier, devant le Congrès, et c'est le seul morceau du discours, d'ailleurs, qui n'a pas été véritablement applaudi par le Congrès, qu'il demandait, en tant que président des États-Unis, le droit de limoger, alors soit de récompenser au mérite les membres du gouvernement qui seraient loyaux et qui, effectivement, suivraient la ligne directrice, et de limoger unilatéralement, par sa seule et unique décision, les membres du gouvernement qu'il considérerait non loyaux à sa politique.
Voilà, encore une chose finalement qu'il a promise et qu'il fait. Exactement. Vous l'avez dit, ce remaniement, ce changement de tête à la diplomatie américaine intervient au lendemain de la fin d'une tournée africaine. Beaucoup de nos auditeurs ont suivi cette tournée, notamment son étape au Tchad hier. Il a annoncé que le pays allait quitter la liste des Muslim Ban, hein, ces pays privés de visa d'entrée aux États-Unis. Est-ce que ce changement de personnalité, de secrétaire d'État, pourrait remettre en question cette annonce?
Il faut espérer que non. Il faut espérer pour le G5 Sahel que cette erreur de casting au départ, si tant est qu'on puisse trouver une logique à ce travel ban d'origine qui disait le président Trump ne ciblait pas véritablement les pays musulmans, donc on va ajouter la Corée du Nord, comme ça, elle va servir d'alibi, mais qui dans le même temps était faite de briques et de brocs, d'États considérés comme terroristes ou comme soutenant le terrorisme international de longue date sur les listes du département d'État, et puis des pays comme le Tchad où véritablement on ne pouvait pas comprendre qu'un partenaire du G5 Sahel, crucial, non pas qu'il y ait moins de 5 piliers, mais incontournable, là où la force Barkhane française a sa base fondamentale sur le terrain, on ne pouvait absolument pas comprendre comment ce pays qui coopère avec l'Occident, donc à la fois l'Europe et les États-Unis, pouvait se retrouver sur une telle liste noire.
Alors cela pose la question de savoir qui finalement de Donald Trump ou Rex Tillerson prenait ce genre de décision, qui a pris la décision de mettre le Tchad sur la liste de ces pays, et finalement qui décide que lors de la visite de Rex Tillerson au Tchad, on annonce la suppression donc du nom du Tchad de cette liste. Qui décidait? Est-ce que vous avez compris, vous, en un peu plus d'un an, finalement, qui prenait les décisions?
Vous posez exactement la bonne question. C'est ce qu'on appelle, ce que les observateurs appelons aujourd'hui, cette diplomatie du chaos de Donald Trump. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à savoir réellement qui prend les décisions, si ce sont des conseillers à la Maison-Blanche, son gendre par exemple. On sait que sur le déménagement de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem, Rex Tillerson s'y est opposé, et il s'est opposé à qui ? Pas simplement à Donald Trump, mais à Jared Kushner. Mmh. Donc on sait qu'il y a différents cercles de conseillers autour du président Trump, et que ça n'est pas forcément que ce soit sa famille, que ce soit des conseillers privés, des amis de longue date, que ce soit des hommes ou des femmes politiques, et que donc le gouvernement se retrouve parfois relégué au troisième ou quatrième cercle des acteurs de la politique du président. Et Rex Tillerson le sait ô combien, s'est fait désavouer tellement de fois par des tweets méprisants du président des États-Unis. Tillerson n'était peut-être pas le meilleur secrétaire d'État que les États-Unis ont connu. Il est certain que la communauté internationale avait un peu de mal à travailler avec lui. Mais dans le même temps, il travaillait, il œuvrait en coulisses, sans chercher les médias, sans chercher les lumières. Il faisait le job, comme
alors,
on dit.
Vous le disiez,
se faisait désavouer par son chef en permanence.
Cela faisait des mois que cela durait. Fin novembre déjà, le New York Times disait que Rex Tillerson était sur la sellette. Écoutez ce que disait à l'époque notre correspondante à Washington, Anne Corpé.
Le président l'a publiquement désavoué à plusieurs reprises. Rex Tillerson n'a jamais démenti avoir qualifié le président de crétin. Interrogé sur l'article du New York Times, Donald Trump a répondu sobrement « Il est ici, Rex est là ». Le porte-parole de la Maison-Blanche n'a pas non plus démenti l'article.
Annick Cizel, vous l'avez dit déjà, certains dossiers ont échappé à Rex Tillerson, c'est-à-dire qu'on ne peut être secrétaire d'État américain et ne pas avoir la main sur tous les dossiers diplomatiques. Mais sur quels dossiers, vraiment, les deux hommes se sont montrés les plus opposés ?
Pratiquement tous, j'ai envie de dire. C'est assez effrayant quand on ébauche en quelques heures cet après-midi la liste des dossiers qui les opposaient. Ça va de l'Iran à la Corée du Nord, au Qatar, à l'attitude des États-Unis envers le Qatar, au déménagement de l'ambassade des États-Unis, donc à Jérusalem. Ça va inclure des alliés non étatiques sur le terrain, effectivement l'opposition à certaines communautés musulmanes, à certains groupes représentatifs musulmans ou à certains États musulmans, le travel ban dont nous parlions il y a quelques minutes, les deux hommes n'étaient jamais d'accord. Donc sur un terrain aussi volatile, potentiellement explosif et crucial que le Moyen-Orient, il semble qu'ils n'étaient d'accord pratiquement sur rien.
Alors on comprend que finalement leur partenariat n'était plus possible, mais finalement on se demande alors pourquoi l'avoir choisi. Est-ce qu'ils ne savaient pas auparavant qu'ils étaient aussi en désaccord sur des questions aussi graves qui forcément allaient se poser?
Alors, je pense qu'il y a une logique du Parti républicain derrière le choix de Rex Tillerson au départ, même si sa nomination par le président avait été ratifiée de justesse au Sénat. Mais il y a une logique républicaine qui était d'inverser le triptyque d'Obama, qui plaçait la diplomatie en premier centre de pouvoir dans la politique extérieure, avant le développement et la défense, et on se retrouvait dans un triptyque républicain de défense en premier, de sécurité intérieure en second, et de diplomatie reléguée vraiment au troisième banc de la politique extérieure des États-Unis. Pour cela, Rex Tillerson était parfait, ça n'était pas un homme du Foreign Service, c'était quelqu'un qui a accepté d'emblée de réduire le budget du département d'État de 30%, au point que le Congrès lui a dit « mais non, vous ne pouvez pas faire ça ». C'est quelqu'un qui n'avait effectivement pas les connexions politiques pour remplir tous les postes au département d'État. Il y a encore plein de postes d'ambassadeurs, la Corée du Sud, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud ne sont toujours pas pourvus aujourd'hui. Donc c'était un choix mineur qui est suivait une certaine logique républicaine. Après, Rex Tillerson s'entendait très très bien avec James Mattis au département de la défense, et on peut se poser d'ailleurs, l'une des questions qu'on peut se poser aujourd'hui est comment cet axe qui fonctionnait très très bien pour se liguer contre Trump, pour en quelque sorte endiguer la spontanéité débridée du président, cet axe qui fonctionnait très bien, comment James Mattis va fonctionner aujourd'hui avec Mike Pompeo, qui lui est un homme politique du sérail républicain, du Tea Party en l'occurrence, et avec un nouvel axe, un nouvel alignement qui vient de se mettre en place entre Mike Pompeo au département d'État et Nikki Haley à l'ONU. Et donc une ligne beaucoup plus dure qui cette fois-ci va protéger Trump très vraisemblablement contre Jim Mattis On peut se demander combien de temps le secrétaire à la Défense va pouvoir rester dans ces conditions maintenant.
Alors Rex Tillerson, vous l'avez dit, sera remplacé le 31 mars, donc à la fin du mois, par Mike Pompeo, jusqu'alors directeur de la CIA. Écoutez ce qu'en dit Simon Grivet, il est maître de conférence en histoire et en civilisation des États-Unis à l'université de Lille, dans le nord de la France.
Quelqu'un qui lui est très fidèle, un républicain du Kansas, qui comme... représentant, si je ne me trompe pas, était un adversaire féroce d'Hillary Clinton. Il avait voulu faire des enquêtes sur Hillary Clinton très longtemps. À la CIA, il semble avoir repris les choses en main. Mais là aussi, on a quelqu'un, Pompeo, qui a explicitement parlé d'une menace russe sur les États-Unis. Donc, à voir comment ils vont à nouveau pouvoir... s'entendre. Après, je pense que Pompeo est aussi remercié parce qu'il a fait quelques prestations télévisées qui ont pu être appréciées du président. Il y en a une il y a quelques semaines. Et il est possible que passer à la télévision pour dire du bien du président soit encore la meilleure façon d'obtenir une promotion dans cette administration.
Annick Cizel, un professionnel des services secrets à la tête de la diplomatie américaine, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Le tandem qu'il va former désormais avec sa remplaçante à la tête de la CIA, qui était donc numéro 2 et qu'il avait choisi pour le seconder, laisse penser que Guantanamo a de beaux jours devant elle, que véritablement les techniques d'interrogatoire de la CIA, qui dans les suites des deux mandats de George W. Bush avaient été tellement décriées, tellement remises en question, tellement mises déballées sur la place publique, vont à nouveau faire la une au moins des médias, peut-être de la des politiques publiques américaines aujourd'hui. Ça semble être un vrai choix de force. Alors c'est vrai que l'une des devises de la politique étrangère de l'administration Trump est « peace through strength », donc la paix, mais à travers la force. Et c'est une démonstration de force à laquelle nous assistons ce soir. C'est un coup de poing sur la table de faire entrer à deux postes très complémentaires, deux personnes qui ont travaillé ensemble, qui sont complémentaires, qui mettent le renseignement pas simplement au cœur du contre-terrorisme, mais un renseignement musclé, et donc annonçant une diplomatie infiniment plus musclée que la diplomatie très en coulisses, très efficace peut-être, de Rex Tillerson ces derniers mois.
Sur quel dossier vous pensez que justement ce tandem, donc entre Mike Pompeo au secrétariat d'État et Gina Haspel à la tête de la CIA, peut servir? À quel dossier vous pensez quand vous dites finalement que c'est plutôt l'espionnage que la diplomatie qui œuvrera pour les États-Unis?
Alors le premier dossier sur le feu actuellement, c'est la Corée du Nord, clairement. Donald Trump nous a fait savoir aujourd'hui que il avait, en tout cas c'est la version officielle, il avait décidé seul d'ouvrir une forme de dialogue et non pas de négociation avec la Corée du Nord. C'est tout le débat de ces dernières 48 heures et on peut penser que c'est une des raisons pour lesquelles Rex Tillerson vient de partir exactement maintenant. C'est-à-dire qu'il y a potentiellement un voyage qui se prépare. On attend toujours que la Corée du Nord valide cette rencontre. Mais c'est une rencontre où Trump voulait une certaine ligne dure, menaçante, potentiellement militairement menaçante envers la Corée du Nord, face à des menaces cybersécuritaires, face évidemment à la prolifération nucléaire. C'est cette ligne-là qui vient de s'aligner, ou les dominos viennent de s'aligner. Wendy Sherman, qui a été l'une des principales, la principale architecte du deal sur la dénucléarisation iranienne en 2016, disait à CNN il y a 24 heures que parmi la délégation qui pourrait accompagner Donald Trump en Corée du Nord, il y aurait John Bolton, ancien ambassadeur aux Nations Unies de George W. Bush. Bolton, qui est peut-être pressenti s'il devait y avoir de nouveaux changements autour de dans l'équipe de Donald Trump. Ça fait quelques semaines qu'on parle du départ possible de H.R. McMaster, son conseiller à la sécurité nationale, et Bolton fait partie des noms qui circulent pour le remplacer. Donc tout ceci est très cohérent, est ce que je suis en train de dire.
Qu'est-ce que ça voudrait dire alors de cette équipe que Donald Trump veut mettre en place pour les négociations avec la Corée
Et c'est
du
une
Nord.
Équipe extrêmement dure. C'est une équipe de faucons, comme on dit. C'est une équipe, Bolton a eu des déclarations publiques, comme il n'est pas au gouvernement, il a eu des déclarations publiques récemment extrêmement va-t-en-guerre envers la Corée du Nord, envers l'Iran, on y reviendra peut-être, mais surtout envers la Corée du Nord.
Alors c'est vrai que Rex Tillerson a été là aussi retoqué. Hein. Il avançait que les États-Unis privilégiaient la voie pacifique avant finalement de se faire littéralement tacler par Donald Trump. Le président préféré, et ça s'est confirmé, une position belliqueuse envers Pyongyang. Mais finalement, Donald Trump, là aussi, choisit le dialogue. Est-ce que vraiment ils étaient si opposés avec Rex Tillerson? Là, on parle encore de négociations. On a quand même posé les armes.
Sauf que justement, c'est toute la discussion sémantique, et c'est pas vraiment dans les habitudes de Donald Trump, de ces dernières 48 heures, de tenter presque de manière obsessionnelle d'opposer négociation à dialogue. Et de dire oui au dialogue, mais trop tôt pour des négociations.
Alors je vous propose d'écouter Donald Trump. C'était samedi dernier en meeting. Il annonçait justement la tenue prochaine de ses négociations avec Pyongyang.
Hey, who knows?
Qui sait si cela a lieu, si cela n'a pas lieu, je peux vite arrêter, ou bien on peut s'asseoir et trouver le meilleur accord pour le monde et pour tous ces pays, y compris, franchement, la Corée du Nord. J'espère que c'est ce qu'il se passera.
Annick Cizel, c'est ce que vous disiez, finalement, la négociation n'est pas la seule solution sur la table pour Donald Trump, toujours pas.
Toujours pas. Son secrétaire à la Défense l'a dit il y a très longtemps et le maintient que toutes les options, je cite, toutes les options sont sur la table. Et elles le sont de plus en plus, j'ai envie de dire, avec ces nouvelles nominations.
Alors, est-ce que Mike Pompeo, est-ce que l'on connaît un peu ses positions, ses avis sur les gros dossiers américains à l'étranger, puisque Donald Trump disait qu'il avait énormément de différends avec Rex Tillerson, a-t-il beaucoup plus d'atomes crochus avec Mike Pompeo?
Oui, alors c'est lui qui le dit. Ça a été vraiment la très courte intervention du président Trump cet après-midi, de dire qu'il s'entend bien, ils sont sur la même longueur d'onde, je cite, avec Mike Pompeo, que véritablement, comme le disait mon collègue de Lille, Pompeo a su flatter le président Trump dans le bon sens. Alors, il l'a flatté pendant toute la campagne électorale, il était à ses côtés pendant la campagne. C'est un fidèle parmi les fidèles. C'est quelqu'un dont Trump acceptait les débriefings tous les matins, etc., au nom de la CIA, bien sûr, mais il acceptait pas forcément les débriefings de tout le monde. Donc, il y a, dans cette diplomatie transactionnelle à la Donald Trump, il y a un côté très personnalisé. Et Trump a toujours été celui qui cherchait les relations humaines avec ses interlocuteurs. Mmh. Et avec Mike Pompeo, visiblement, le courant passe.
Alors, on connaît peu, finalement, les positions de Mike Pompeo. C'était pas exactement ce qu'on attendait de lui à la tête de la CIA. Mais en octobre dernier, il avait quand même accusé l'Iran de rechercher une hégémonie régionale. Il se disait favorable à la dénonciation de l'accord sur le nucléaire iranien en 2015. Cela explique forcément le choix aussi de Mike Pompeo aux côtés de Donald Trump.
Précisément, et je crois qu'il y a deux pays sur lesquels, d'un côté, ils vont être tout à fait d'accord, et de l'autre, pas du tout. Sur l'Iran, ils sont totalement sur la même ligne. Et Trump, tout à l'heure, dans sa première déclaration, donc suite au limogeage de Tillerson, a mentionné que l'accord nucléaire iranien était vraiment le point sur lequel il ne pourrait jamais se réconcilier avec Tillerson. Là, Pompeo est complètement sur la même ligne. Et je ne peux pas ne pas préciser que le contexte, là encore, on a tous été surpris cet après-midi, moi la première, mais on n'aurait peut-être pas dû sur ce limogeage, parce que Benjamin Netanyahou sort de Washington, vient de repartir de Washington et de donner un discours donc devant l'AIPAC, devant le principal lobby juif américain, durant lequel il a stigmatisé l'Iran comme étant en train de se construire un empire dans la région du Moyen-Orient actuellement. Et la semaine prochaine, Mohamed Ben Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite, vient à la Maison-Blanche. Or, on sait qu'il y a une ligne très très claire, un intérêt très clair des deux côtés, côté Israël actuellement, côté Arabie Saoudite actuellement, qui rejoignent Donald Trump à vouloir non seulement isoler l'Iran, non seulement endiguer l'Iran, mais il ne faut pas perdre de vue que le Parti républicain, déjà en 2010, parlait de faire la guerre à l'Iran. Donc c'est véritablement l'isolement, voire un changement de régime potentiel, qui est en train de s'aligner contre l'Iran dans les bouleversements diplomatiques des États-Unis aujourd'hui. Et très très rapidement, juste sur le pays où ils vont s'opposer avec Mike Pompeo, c'est la Russie. Parce que là, Pompeo a tenu un discours éternellement très très dur contre la Russie. Le chef de l'espionnage, c'était son boulot. Et là, avec Trump, ils vont avoir beaucoup de mal à trouver un terrain d'entente.
Et alors que Donald Trump avait choisi Rex Tillerson aussi pour ses relations avec Moscou, ça n'a pas marché. Merci beaucoup, Annick Cizel, d'avoir été avec nous, maître de conférence à l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3. Merci à toute l'équipe de décryptage, Éléonore Crini, Anaïs Tchikaya, Gérard Perrault et Claude Battista. Dans 30 secondes, le journal Afrique.